Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. On va coller en plein ce matin dans l'actualité sportive. C'est aujourd'hui le prix de l'Arc de Triomphe, donc eh bien une grosse part sera consacrée à l'hippisme ce matin dans cette émission Tribune Sport entre 9h et 10h. On aura les pronostics de notre ami Jean-Claude pour la dernière réunion de la saison sur Rambouillet. On vous l'avait promis, on en avait parlé la semaine dernière aussi, beaucoup parlé donc d'hippisme avec celui qui est notre pronostiqueur hippique maison, Boris. Boris, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs.
Merci d'avoir répondu à l'invitation. On va profiter donc, je l'ai dit, de cette belle journée pour le sport hippique, avec le prix de l'Arc de Triomphe, pour rentrer un peu plus dans les méandres de ce sport qui est l'hippisme. On aura également un petit direct en fin d'émission vers les foulées olympiques qui se déroulent du côté de Buc, en ce dimanche donc 5 octobre. Et puis pour Tribune Foot, eh bien, on retrouvera la populaire Juliette Rouvel des amis du Paris Saint-Germain qui nous fera un petit peu le bilan du début de saison du PSG. Et puis on recevra également le club de foot de Villepreux. Voilà donc pour le menu de cette émission. Boris, très brièvement, la passion des courses, ça remonte à quand ?
Ah, la passion des courses, c'est très ancien pour moi, c'est pratiquement à ma naissance, on va dire. Moi, j'ai appris à compter sur journaux spécialisés d'hippisme, avec mon grand-père à l'époque, donc c'est des souvenirs qui remontent très loin, et puis progressivement, la passion est arrivée. Je dirais qu'il y a des gamins, quand ils sont petits, ils collent les images
les
de
panini,
foot, les panini, bah moi c'était pas ça, moi c'était le spécial dernier qu'on ouvrait, qu'on regardait, puis j'ai appris à compter là-dessus, donc après, automatiquement, ça devient une passion et plus facile comme ça.
D'accord, bon, enfin, on en parlait hors antenne, vous connaissez bien le ballon aussi.
Tout ce qui est sport en général, sport de balle, sport collectif, parce que c'est un peu ma mentalité, et dans le cheval c'est pareil, effectivement, c'est un petit peu des choses qu'on a vécu. Moi, je suis issu d'une famille très sportive. Ma mère était prof de danse. Mon père a enseigné le basket.
Ah oui, d'accord.
Et mon oncle, qui est décédé maintenant, était un champion d'athlétisme à l'époque d'Ouvion. Donc, on a été baigné dedans. Je suis peut-être un peu le vilain canard au niveau du sport, mais au niveau des courses, ça va à peu près.
Très bien. Eh ben, on va donc connaître tout cela tout au long de cette matinée, toute cette passion. Il y a à la fois l'amour du cheval et du sport hippique et aussi des jeux, ou c'est les deux?
Disons que, en général, c'est souvent comme ça que ça se passe. On démarre par le jeu parce qu'à 15 ans ou à 20 ans, on n'a pas l'argent pour pouvoir s'offrir une passion ou participer à cette passion. Et progressivement, on s'aperçoit qu'on s'enrichit pas aux courses. Et donc, l'idée à travers ça, c'est de construire des choses en ce qui me concerne et de m'associer pour avoir un cheval de course. Donc, en l'occurrence, un trotteur et vivre sa passion pleinement. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu ça l'optique de ma passion.
Allez, la météo, on va essayer de savoir ce qu'il fera comme temps aujourd'hui du côté de l'hippodrome de Rambouillet et pour le prix de l'Arc de Triomphe.
Oui, c'est important.
La météo, l'éphémérie de la pub, et puis on se retrouve dans quelques minutes. Allez, la météo est pas très bonne aujourd'hui, donc on va retrouver notre ami Jean-Claude pour les pronostics des courses pour l'hippodrome de Rambouillet, la dernière réunion de la saison. Auparavant, vous n'oubliez pas qu'il y a ce matin le triathlon promo de Rambouillet, c'est la 23e édition. Il y a 450 mètres de natation, 17 km à vélo, 5 km de course à pied. Le temps, naturellement, est fait sur chaque épreuve, mais il y aura un classement sur le temps total réalisé au cours des trois épreuves. Les premiers départs donc se dérouleront à partir de 9h30. Donc, soit vous allez participer, soit vous allez suivre ce triathlon promo, et ensuite vers 13h30 vous vous rendez donc à l'hippodrome de Rambouillet pour la dernière réunion de la saison. Jean-Claude, bonjour.
Eh bien c'est bien Philippe, bonjour, c'est très bien présenté tout ça.
Absolument.
Ça c'est impeccable, car juste après vous venez nous voir.
Voilà.
À l'hippodrome à Rambouillet. On espère quand même que cet après-midi le temps va être de la partie. Bon, n'importe comment, là-bas, tout est couvert, il n'y a aucun souci. Hein. Même s'il y avait un temps désagréable, on a des tribunes, on a un hall couvert, on a tout. Hein. Donc, sur l'hippodrome avec vos enfants, vous venez, il y a des jeux pour les enfants, il y a des structures gonflables, il y a beaucoup de choses. Tout ça, c'est gratuit pour les enfants. Donc, n'hésitez pas à venir, vous ne serez pas mouillé sur l'hippodrome, mon cher Philippe.
Oui, alors Jean-Claude, c'est la dernière de la saison qui coïncide traditionnellement avec cet événement qui est, en quelque sorte, le championnat du monde des galopeurs, à savoir le prix de l'Arc de Triomphe.
Eh oui, nous on va dire ça comme ça. En France, on appelle ça le championnat du monde des galopeurs. En Amérique, il y en a une autre, en fait, etc., etc. Mais c'est une course extraordinaire. Et en plus, cette année, ils ont trouvé, France Gallo a trouvé un sponsor, le Qatar. Le Qatar qui a tout simplement doublé les prix. L'année dernière, pour le prix de l'Arc de Triomphe, il y avait 2 millions d'euros. C'était déjà énorme en jeu. Cette année, il y a 4 millions d'euros. 4 millions d'euros, dont plus de la moitié aux vainqueurs. Donc le Qatar, ils ont bien de la chance à France Gallo, car ils vont être avec eux pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Le sponsor, le Qatar. Donc, je vous donne peut-être dès maintenant les pronos de l'Arc de Triomphe.
Allez, on y va, on va commencer par les pronostics.
Oui, alors, oui. Il y a une craque française qui appartient à l'Agacan, c'est Sarkava. Sarkava, la numéro 16, on est obligé de la mettre en tête. Sarkava, c'est une pouliche de 3 ans. Attention, cette fois, elle va rencontrer les mâles et les vieux, donc ça peut tout changer, mais tout le monde dit que c'est une craque, la 16, Sarkava. Ensuite, le 7 Duke of Marmelade, qui est le meilleur étranger, qui va être sur notre sol. On a énormément d'anglais qui vont être donc cet après-midi dans l'Arc de Triomphe. Le 7 Duke of Marmelade, qui est invaincu cette année avec 5 victoires dans les groupes 1, c'est-à-dire dans les grandes courses. Le 12 Vision d'État, qui est très bon en France. Vision d'État, le 12, il y a très peu de chevaux français. On mettra ensuite l'As Yumsem, le 6 Soldier of Fortune. Et un japonais talentueux qui vient nous voir, c'est le 5, Meisho Samson. 16, 7, 12, 1, 6 et 5. Je vous rappelle tous les jours, 08 99 70 73 00. 08 99 70 73 00. Vers 10h, soit 8, toutes les dernières minutes. Voilà, Philippe, pour la grande journée de l'Arc de Triomphe.
Très bien. Et pour donc les pronostics de Rambouillet, Jean-Claude ?
Rambouillet, il y a beaucoup de chevaux cet après-midi. On a 7 courses au programme. La première partira à 14h15. Et on terminera de bonne heure. À 17h30, ça sera fini. Hein. Donc vous pouvez venir nous voir cet après-midi sans problème. Alors Rambouillet, où la piste va être en parfait état, car cette semaine, il a comme fait beau, à part aujourd'hui que c'est un petit peu plus délicat. Mais la piste est parfaite. Dans la première course, le 12, le 9 et le 10. 12, 9 et 10. Dans la deuxième, le 15, le 12 et le 11. 15, 12 et 11. Dans la troisième, le 13, le 8 et le 9. 13, 8 et 9. Dans la quatrième, le 14, le 17, le 16 et le 13. 14, 17, 16 et 13. Dans la cinquième, qui est le prix du Conseil Général des Yvelines, l'hippodrome de Rambouillet est très aidé par la ville de Rambouillet. Là, c'est le prix du Conseil Général des Yvelines. Donc, le pronostic, 5, 11, 14 et 12. 5, 11, 14 et 12. Dans la sixième, le 9, le 4 et le 6. Le 9, le 4 et le 6. Et donc, on terminera par cette septième et dernière course. Ça sera d'ailleurs la clôture de la saison à Rambouillet. Avec le 12, le 9, le 1 et le 2. Le 12, le 9, le 1 et le 2. Cette course au programme, si tout va bien, 17h15 la dernière, au pire 17h30.
D'accord. Quel bilan qu'on peut faire, Jean-Claude, de cette saison de course sur Rambouillet ? Allez, en toute honnêteté, je crois savoir qu'il y a eu beaucoup moins d'entrées cette année.
Ouais. Hein. Beaucoup, on ne va pas dire beaucoup, mais il y a quand même... on a moins d'entrées, c'est-à-dire que c'est un bilan très mitigé. On n'a pas grand-chose à reprocher autant cette année. Il a fait, bon, c'était peut-être moyen, mais ma foi, on a des courses toujours en début d'année, hein, donc et en fin d'année, c'est pas toujours facile. Alors que tout est fait par l'équipe dirigeante qui est présidée par Monsieur Poisson, tout est fait pour avoir un hippodrome qui vraiment est très agréable, au dire des professionnels, au dire des turfistes, au dire des gens qui viennent. Mais on a du mal quand même à, disons, à augmenter l'assistance, quoi. Hein. Déjà la garder, c'est dur, l'augmenter, c'est très difficile. Et cette année, il y aura un déficit d'entrée, alors que tous les enfants ont eu toute l'année une promotion énorme avec tout un tas de structures gonflables, de poneys, enfin de beaucoup de choses gratuites. Hein. Eh bien, il faut encore trouver une autre idée. Il faut trouver une autre idée pour faire venir les gens le dimanche après-midi dans ce cadre de verdure qui est absolument magnifique, Philippe.
Oui, alors, est-ce que c'est un phénomène qui est général, Jean-Claude, ou c'est spécifique à l'hippodrome de Rambouillet et l'hippodrome de Chartres, hein, qui ne fonctionne, je crois, que l'hiver ?
Alors, oui, alors après, nous allons donc fermer Rambouillet, puis il y aura Chartres qui va attaquer presque tous les dimanches d'octobre et de novembre. C'est vrai que ce n'est pas des dates exceptionnelles. Hein. Les dates de début d'année et de fin d'année ne sont pas les meilleures, bien sûr. Il y a les conditions météo qui sont malheureusement pas toujours terribles, alors que... Les pays qui ont la chance, les villes qui ont la chance d'avoir des courses l'été, bien les gens viennent pique-niquer, enfin c'est beaucoup plus sympathique, c'est vrai, au niveau du temps, au niveau du soleil en juillet-août. Alors, au niveau national, on a du mal aussi à tenir les spectateurs. Au niveau PMU, cette année, c'est encore pas mal du tout. On peut peut-être tabler sur 3, 4 ou 5% de majoration. Mais attention, c'est un peu faussé, les chiffres sont faussés, car on a tous les ans des réunions supplémentaires organisées par le PMU, ce qui fait qu'il y a une offre supplémentaire tous les ans. Et on a, bien sûr, on est 4-5% de mieux en chiffre d'affaires, mais c'est peut-être un leurre, en fait. Attention, c'est peut-être un leurre. Et puis l'année prochaine, c'est le grand chambardement dans les courses. Hein. L'année prochaine, je dis, à partir du 1er juillet, le PMU perd son monopole. Alors ça, c'est comme l'EDF, c'est comme tout maintenant, hein. Tout le monde perd son monopole. Et les opérateurs privés vont pouvoir déposer des dossiers en début d'année au ministère des Finances et au ministère de l'Agriculture. Et certains, il y en a quelques-uns qui seront choisis. Et vous pourrez jouer non plus que sur le PMU, mais vous pourrez jouer sur quelques opérateurs privés. Donc, mais ces jeux n'auront lieu que sur Internet hein, pour l'instant. Mais attention, c'est une ouverture énorme. Et on se dit d'ailleurs que le PMU va peut-être prendre également, et ça c'est un virage extraordinaire, des jeux sur, pourquoi pas les matchs de football, quoi.
Eh oui.
Tout va changer, quoi. On a l'impression qu'au 1er juillet 2009, ça sera le grand chambardement dans le monde hippique.
Oui, parce que Jean-Claude, si on vient moins à l'hippodrome de Rambouillet et sur l'ensemble des hippodromes, on joue quand même toujours autant à travers Internet aussi. Hein,
Voilà, on joue toujours autant, mais attention, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être un leurre parce que l'offre est plus importante. Alors, c'est pas un nombre de journées égal. Tous les ans, on va ajouter 30, 40, 50 journées PMU supplémentaires. Alors, une journée PMU, c'est très important, ça draine beaucoup d'argent, quoi. Et quand on en ajoute, bien sûr, un certain nombre, les joueurs jouent, c'est comme ça. Quoique cette année, on a eu quand même, pour la première fois dans les casinos de France, je crois que les machines à sous ont perdu 20% cet été. Mm-hmm. Et donc attention, il y a peut-être un début de dérive, quoi.
Oui,
et
puis il y a une conjoncture économique, et on en a suffisamment parlé cette semaine, qui n'est pas terrible, et naturellement, ça a des incidences.
Ben écoutez, tout le monde dit que ça va mal partout, on entend que des mauvaises nouvelles partout. Le jeu va toujours bien, sauf que les casinos ont l'air de vouloir chuter cet été. Il faut serrer les coudes, il faut y croire toujours. Mais on n'est quand même pas dans une période euphorique où je pense que le pourcentage du PMU ou d'autres opérateurs qu'on aura sera d'une progression étonnante, quoi. Je pense, si on arrive déjà à zéro, mais attention, c'est qu'aux courses, il y a comme un facteur très important, c'est que les prix qui sont distribués dans toutes les courses de France, les courses PMU de France, donc ce qui est très important, le sont grâce aux joueurs. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le PMU baisse de béton de 10 ou 20%, car on risque de baisser les prix également, qui vont venir aux propriétaires, aux entraîneurs et aux jockeys. Tu vois, Philippe, c'est très très important, quoi. C'est une masse importante.
Alors ce matin, on a donc Jean-Claude en studio, notre ami Boris, qui est aussi pronostiqueur et puis propriétaire d'un cheval de course. On va vous mettre donc en relation, c'est ça, l'interactivité de la radio. Ouais. Boris.
Bonjour Monsieur Couillard.
Oui, bonjour, comment ça va?
On ne se connaît pas, mais je vous ai croisé quelques fois sur Vincennes et sur l'hippodrome de Rambouillet.
C'est bien, la prochaine fois, on essaiera de se rencontrer.
Avec plaisir.
Alors, voilà. Est-ce que Boris partage l'opinion de Jean-Claude?
Oui, je partage l'opinion de Jean-Claude et je dirais que c'est un peu la poule aux œufs d'or. Il est clair qu'aujourd'hui, si vous constatez une défection sur, entre autres, l'hippodrome de Rambouillet, je pense qu'effectivement, l'offre, on peut jouer maintenant pour un parieur, il peut jouer de chez lui. Et c'est un petit peu ce qu'on a constaté au niveau du foot et du remplissement des stades. Mm-hmm. C'est qu'en fait, l'offre du bouquet CanalSat permet à des gens de ne pas se déplacer et de pouvoir avoir un spectacle en direct. Alors, c'est un constat. Je pense qu'il est un petit peu, pour des gens comme nous qui aimons aller voir les courses et les vivre de près, il est un petit peu, je dirais, déplorable. Mais malheureusement, il faut faire avec. Par contre, mon avis au niveau du PMU, qui va devoir un petit peu s'adapter et puis changer de mentalité, je pense que c'est un mal pour un grand bien. Et je pense que le PMU, à terme, devrait pouvoir nous proposer de nouvelles possibilités intéressantes en termes de paris et autres. Et je pense que ça risque, même si ça fait poser énormément de questions aux gens de la profession. Je pense que ça va booster un tout petit peu ce monde des courses et on devrait tous y retrouver, je pense, à terme. C'est ce que vous en pensez ?
Ah oui, mais absolument, c'est sûr, Boris, parce que ils sont endormis. Hein. Ils étaient trop, c'était trop. Je crois que le PMU, si je ne dis pas de bêtises, c'est Association Loi 1900. Hein.
Tout à fait.
France Gallo également.
Comme la SOCF également, d'ailleurs aussi.
Ce sont des trucs qui me paraissent complètement aberrants. Moi, je suis élu au comité du cheval français pour l'Île-de-France et il y a des choses complètement des associatifs à ce niveau-là, alors qu'on draine des milliards d'euros.
On est d'accord.
C'est quelque chose. Alors, c'est sûr que le PMU s'est endormi sur ses lauriers. Il y avait une progression magnifique, 5, 6, 7, 8% tous les ans. Hein. Maintenant, par rapport, par exemple, aux Anglais, où il y a une demande beaucoup plus importante que chez nous. On a beaucoup de retard, le PMU a beaucoup de retard par rapport aux opérateurs anglais. Hein. Mmh. En Angleterre, on joue sur tous les hippodromes
qui existent. Mais je crois que ça va venir, M. Couillard. J'ai entendu parler qu'on va pouvoir jouer sur les petits hippodromes de province prochainement, si j'ai bien compris.
Mais alors, on va pouvoir, à partir du 1er octobre, le PMU ouvre donc une vingtaine de réunions au mois d'octobre sur toute la France.
D'accord.
Bon, mais comme j'en parlais avec M. Poisson, là, le président de Rambouillet, cette semaine, c'est pas ça qui va nous faire amener du monde sur l'hippodrome.
Hein.
C'est encore le contraire.
C'est le contraire. Hein.
C'est encore le contraire.
Tout à fait.
C'est-à-dire que tout est fait pour que les gens jouent, mais pas pour qu'ils viennent sur un hippodrome. Mmh. Moi, je suis à toutes les réunions d'Anguien, par exemple, ou de Vincennes. Mmh. Jeudi, on avait course à Anguien à 16h. Il y a peut-être 200 personnes sur l'hippodrome. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne, mais ça, c'est... Ça n'intéresse plus personne, ça n'intéresse pas nos dirigeants, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est le jeu, le jeu, le jeu. Alors,
faire attention, parce qu'il peut y avoir...
Mais bon, c'est possible qu'il y a d'autres idées qui vont sortir grâce à l'ouverture, hein, attention. Hein, mais c'est un peu flou tout ça, on ne sait pas trop ce qui va se passer, parce que le PMU, par contre, a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il distribue l'argent en société de course d'une façon vraiment sans équivoque, quoi. Hein. Alors... Quand ça sera des sociétés privées, ça...
Oui, on aura peut-être des abus, Jean-Claude, comme c'était fait avec Zeturf, je crois savoir.
Comment ?
On pourra avoir quelques abus aussi, peut-être, certaines dérives qui vont arriver.
Zeturf, ils ont lancé tout avant tout le monde, en pleine illégalité.
Ouais, c'est ça.
Ils sont partis à mal.
Oui.
Alors, tout ça, c'est pas très, très clair. Il y a quand même beaucoup d'opérateurs également actuellement qui sont à Malte, qui sont à Gibraltar aussi, dans les paradis, trucs, machin. Et vous voyez, c'est pas facile, quoi.
Alors, peut-être cette situation, hein, quelque part, de légaliser les possibilités pourra un petit peu assainir cette situation. C'est peut-être pas plus mal.
Par contre, ce qu'a décidé le gouvernement français, c'est qu'on ne pourra plus avoir un opérateur à Malte, en siège social, qui prenne des jeux en France. Il faudra qu'il soit absolument en siège social en France. Hein. Donc ça va peut-être clarifier, c'est sûr. L'avenir le dira. Hein. Je crois que tout bouge, n'importe comment. Tout bouge de partout. Hein. Donc nous, on va bouger énormément. On va bouger énormément, je pense, à partir du 1er juillet, où certainement le PMU va s'adapter. Ça, il s'est bien obligé. Notamment à d'autres jeux, peut-être le poker, peut-être beaucoup de choses. Quoi.
Très bien. Jean-Claude, merci. Bonne course sur Rambouillet. Bonne fin de saison. Et puis rendez-vous la saison prochaine.
Eh ben, avec plaisir. Hein.
Ok.
Merci Philippe.
Salut Jean-Claude. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, voilà, Boris, un petit mot donc en complément.
Oui, je trouve dans la globalité qu'effectivement deux mondes sont en train de se scinder. C'est-à-dire que vous avez le monde des courses hippiques gérées par des gens comme Jean-Claude qui tendent le fait de faire venir de plus en plus de gens, mais malheureusement tous leurs efforts sont contrecarrés par une organisation des prises de paris qui se fait par de plus en plus des moyens modernes type internet. Donc si vous voulez, il y a une situation relativement antagoniste qui fait qu'on essaye d'un côté de faire venir les gens et on fait tout par ailleurs pour les maintenir au chaud à la maison. Donc je pense qu'il y a des ponts à trouver entre les deux, peut-être en termes d'animation sur les hippodromes, peut-être en tête de tombola, de choses. On voit beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Malheureusement, c'est de plus en plus annihilé par une politique de gros sous. Et on le retrouve, je parlais du foot tout à l'heure, mais on le retrouve dans le sport de haut niveau en termes de prise de paris. Ouais. La défection des stades et des choses. Voilà, on essaie d'organiser les grandes fêtes. Le rugby, pour l'instant, s'en sort assez bien. Ouais. Grâce notamment à son mentor sur Paris, Max Guazzini. Mais c'est vraiment...
Enfin, le foot, il faut payer quand même. Hein. Si on veut tout voir, ça coûte au moins 80 euros par mois.
Oui, c'est vrai que là, c'est un petit peu plus cher. Alors que pour rentrer sur un niveau l'hippodrome pour 5 euros. Et ouais. Puis les enfants, c'est offert pour les enfants, c'est un petit peu plus facile.
Très bien, mais optimiste quand même pour la suite.
Très optimiste, je pense de toute façon qu'avec le fait d'ouvrir au PMU cette possibilité, effectivement le PMU va se mettre sur des paris sur lesquels il n'avait pas accès avant, donc ça va être une remise en cause effectivement de son organisation, mais il faut savoir malgré tout, parce que là on est en train un tout petit peu de tirer sur l'ambulance, que le PMU est une grande société française, très bien organisée, très très bien structurée, et il n'y a pas de raison, hein, c'est un peu la mentalité franco-française, qu'on se replie sur nous-mêmes, il n'y a pas de raison, c'est une grande société, comme la Société Française des Jeux, par exemple, et il n'y a pas de raison qu'on puisse pas répondre sur des paris qu'on ferait à Tokyo, à Londres ou à Madrid. Donc, non, je pense qu'il faut voir ça du bon côté des choses. Il faut simplement que des ponts et des interfaces soient trouvés entre les gens courageux, bénévoles ou professionnels qui gèrent les courses en France, et puis les gens qui vont faire que l'argent va tourner plus vite qu'avant au niveau de la prise des paris.
Donc, si on veut et si on est passionné par les chevaux, on peut essayer donc aussi de devenir pourquoi pas propriétaire ou de prendre des parts.
Alors,
un cheval.
Oui, mais il faut qu'à la base, si c'est ça qui il faut qu'à la base ça soit une passion, parce que si vous voulez, on s'enrichit pas aux courses quand on est de l'autre côté de la barrière en termes de propriétaire. Il faut vraiment qu'au départ, il faut vouloir s'amuser. Sinon, c'est pas possible. Votre argent, vous la mettez en banque, vous la mettez surtout pas en bourse en ce moment. Mais vous la mettez pas dans un cheval de course. Il faut que, à l'origine, vous ayez une envie, une passion et quelque chose qui vous anime. Sinon, c'est peine perdue, quoi. Si vous voulez, vous avez à peu près 5000 propriétaires. Moi, je vais parler du trot, parce que c'est vraiment ma passion. Mm-hmm. Vous avez à peu près 5000 propriétaires en France, mais beaucoup plus. Vous avez au moins 20-25 000 propriétaires, puisqu'en fait, l'associatif, le fait de s'associer sur un même cheval, ce qui m'arrive à moi, permet d'avoir une multiplicité en termes de propriétaires de chevaux, si vous voulez. Mmh. Voilà, quoi. Et puis, l'idée, à travers d'être propriétaire, c'est d'accéder, enfin moi, en ce qui me concerne, et de partager cette passion avec d'autres, d'être à deux ou trois sur un cheval, c'est de limiter aussi l'impact financier, parce que faut savoir que l'entretien d'un cheval et l'acquisition d'un cheval, c'est quand même pas à la portée de toutes les bourses, et c'est aussi pour ça que j'ai attendu près de 40 ans pour me lancer là-dedans, quoi. C'est véritablement une passion, mais une passion qu'il faut assumer.
Alors justement, ça se passe comment pour tous les curieux, tous ceux qui sont amoureux des courses? Bon, d'abord, ce qui est prioritaire, c'est l'élevage. Au départ, est-ce qu'on fabrique, est-ce qu'on fait naître un cheval dit de course?
Oui. Si vous voulez, oui, tout à fait. C'est une alchimie. C'est-à-dire c'est un peu comme si on mariait Carl Lewis avec Marie-Jo Pérec.
Voilà. Ça doit donner quelque chose de bien.
En principe, je ne sais pas si ça donne un champion, mais ça doit donner...
Il y a des gènes au départ.
Hein. Oui, ça doit donner quelqu'un ou une personne qui doit avoir au moins, je dirais, des préalables pour devenir un sportif, tout du moins. Après, un champion, c'est d'autres choses. Mm-hmm. Donc, c'est exactement la même chose au niveau des chevaux, que ce soit en plat ou en trot. Mm-hmm. C'est-à-dire que les éleveurs font en sorte, avec des poulinières qu'ils ont au niveau de l'élevage, font en sorte de croiser les races, croiser les origines. Alors, c'est une alchimie. Et puis, d'essayer d'avoir le meilleur compromis entre la jument, la mère, qui donne souvent la qualité du poulain ou de la pouliche, et puis l'étalon père, qui est reconnu en tant que tel. Et puis, le croisement des deux, on croise les doigts, et puis on espère que ça va devenir un champion. Quoi.
Alors, il y a eu des belles réussites, il y a eu aussi des échecs.
Hein, complètement. J'ai le souvenir de Fanny Doll, qui était une jument d'exception, qui a couru plusieurs fois le prix d'Amérique, qui a été croisée avec un cheval qui s'appelait Varenne, avec un champion italien qui a gagné le prix d'Amérique, et à l'arrivée, rien du tout. C'est-à-dire que les rejetons ou le rejeton n'a absolument pas donné, je sais même pas si le cheval a couru. Donc si vous voulez, c'est pas une science exacte, mais l'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de l'excellence, quoi. Mm-hmm. Voilà, mais c'est pas facile, hein. Il y a quand même plus de 8000 éleveurs en France. 5000 possèdent au moins une poulinière. 5% seulement possèdent 5 poulinières. Ça veut dire qu'il y a une moyenne de 2 poulinières par éleveur. C'est un monde qui est en pleine évolution, en plein développement. Et on constate, je vais vous donner un exemple, par exemple Jacques de Belouet. Mm-hmm. On constate que finalement, c'est pas forcément les éleveurs les plus costauds financièrement et les plus renommés qui vont sortir des champions d'exception. Donc c'est un monde sur lequel énormément de petits éleveurs se sont dit il faut qu'on y aille aussi, parce que finalement pourquoi pas, donc c'est un peu ça. Il faut savoir qu'il y a à peu près 10 000 poulains qui sont mis sur le marché par an, hein, donc c'est assez énorme. Là, la société d'encouragement des courses essaye de limiter cet impact pour garder, si vous voulez, la race du trotteur, je dirais, d'une manière assez noble, parce qu'il faut savoir qu'il existe 4 races dans le monde des courses au niveau des trots. Il existe la race du trotteur Orlov, qui est un trotteur russe,
d'accord,
très ruste, assez sympathique, très sympa pour les gamins. Il existe une autre race qui est la Standardbred, qui est une race américaine. Une autre qui est beaucoup plus du nord, scandinave, la Kalblod. Et puis la race du trotteur français, qui est peut-être la plus appréciée des quatre, hein, qui a vraiment une particularité. C'est-à-dire que le trotteur français qu'on voit sur l'hippodrome, comme cet après-midi sur Rambouillet, c'est un trotteur assez russe, assez fort, à peu près d'1m70 au garrot, et avec des couleurs différentes. Enfin, c'est véritablement quelque chose qui nous est propre. C'est une sorte de marque de fabrique à la française, réputée dans le monde, vraiment très 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 caractéristique, avec des baies bruns, des baies alsanes, enfin tout un tas de choses qui font la caractéristique du cheval trotteur français.
Donc je dirais un enfant de trotteur, il peut devenir que trotteur, il peut pas devenir galopeur.
Alors il peut pas devenir galopeur, par ses origines et sa race. Si on prend l'exemple de tout à l'heure, il faudrait à ce moment-là marier Michel Platini et Marie-Jo Pérec.
Voilà, c'est ça.
Pour qu'ils puissent non, ça se fait pas.
C'est-à-dire que c'est des sprinters, c'est pas des coureurs de fond.
Alors,
quoi, c'est
vous,
ça.
Voilà, ouais. Exactement. Là, ouais. On pourrait effectivement faire cette nuance entre un sprinter et un coureur de demi-fond. Ouais. Et c'est-à-dire que vous avez effectivement, alors on en vient à l'organisation des courses, vous avez effectivement d'un côté la race trotteur qui est gérée par une société qui s'appelle la Société d'encouragement des courses, la SECF, dont doit dépendre monsieur Couillard qu'on a entendu tout à l'heure. Et puis vous avez des galopeurs avec des pur sang, des races bien différentes qui viennent d'origine plutôt arabe avec des croisements faits, qui est gérée là par la société France Gallo, hein, puisque la société des courses au niveau du trot est bien différente, et les enjeux aussi économiques sont bien différents, puisqu'on pense, comme on pense que l'Arc de Triomphe cet après-midi, comme l'a dit monsieur Couillard, va apporter 4 millions d'euros d'allocation.
Ouais, je crois qu'on va battre des records d'enjeux.
On le double, hein, tout simplement. Grâce aux sponsors du Qatar, on sait d'où vient aussi l'argent, hein. Ce sont des gens qui manipulent l'argent véritablement de manière un peu différente, comme on le voit au foot dernièrement, avec le transfert de Feinduno au Qatar. Bon, les enjeux sont un petit peu différents. Par contre, quand vous arrivez au trot, le prix d'Amérique qui est purement doté va être à peu près 3 fois inférieur au prix de l'Arc de Triomphe. Ça veut dire que les valeurs et le monde est un petit peu différent, ce qui n'empêche pas qu'il y a des circulations d'argent. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi le trot. D'une part parce que c'est un petit peu plus accessible au niveau des bourses, et puis par ailleurs en termes de mentalité, je trouve ça un peu plus sympathique. En fait.
Donc c'est deux mondes à part.
C'est à la fois, on fait partie du même monde, mais c'est deux philosophies différentes, avec des moyens, je dirais. Quand vous allez à Longchamp, c'est pas tout à fait
Vincennes
ou Enghien. Ouais. Ça reste des mecs de la course hippique en France et dans le monde, mais en termes d'ambiance et de mentalité, c'est un tout petit peu différent. C'est pas une critique de ma part, c'est juste un constat. Après, chacun y trouve son intérêt. Hein. Le sportif Christophe Soumillon de River et le...
Quel mari de Sophie Talman. Hein.
Exactement. Voilà. Alors, je vois que là, Philippe, vous montez en puissance au niveau de la connaissance hippique. C'est tout à fait ça. Et aussi valeureux, je veux dire, qu'un Michel Lenoir, qu'un Jean-Michel Bazir. Il n'y a pas de différence. C'est des sportifs, ils s'entraînent. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, mais ça reste des gens de valeur, néanmoins.
Alors, un cheval, il naît.
Oui.
Comment on le prépare? Comment on l'emmène à devenir un compétiteur, un cheval de course, que ce soit un cheval donc de galop ou de trot?
Bien sûr. Alors on essaye d'avoir des prédispositions à la course, c'est-à-dire au trot. Alors il va naître, on va le laisser tranquille la première année. Hein, la première année, si on remonte vraiment un peu plus loin, il va y avoir la saillie. J'en profite au passage pour dire que la race du trotteur français est très bien organisée. C'est-à-dire qu'on a en France tout un tas d'haras nationaux qui permettent la reproduction. Je vais citer le haras des Brévières.
Voilà, absolument, hein, tout près de chez nous. Donc
exactement, à une époque, il y avait Valseur Barbet qui assurait la reproduction, je ne sais plus si c'est toujours vrai, qui est vraiment à deux pas de chez nous. Donc, il y a tout un tas d'haras nationaux, une quinzaine, une vingtaine d'haras nationaux sur la France qui permettent une organisation très pragmatique de la gestion de la saillie, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Alors après, quand le rejeton, si vous voulez, naît, on va l'appeler le foal, c'est-à-dire qu'entre sa sa naissance et il est un an, c'est le foal. Donc ce cheval-là va être au champ, hein, on va s'occuper de lui, on va le regarder, mais globalement, il va vivre avec sa maman, avec la poulinière, et puis on va le laisser tranquille. Et puis s'il est un peu précoce, on va commencer à le travailler au bout d'un an, gentiment à l'entraînement. Donc le cheval qui prend sa première année, on l'appelle le yearling, hein, il est plus foal, il est yearling. Entre un an et deux ans, c'est un yearling. Et là, en fonction des prédispositions, vous allez avoir des chevaux précoces, comme dans toutes les disciplines, puis vous allez avoir des chevaux qui ne vont pas l'être. Donc les chevaux précoces vont démarrer gentiment à l'entraînement, on va leur faire découvrir ce que c'est que le trot, ce que c'est qu'un sulky, et puis différentes méthodes. Puis celui qui est pas précoce, ben on attendra deux ans ou deux ans et demi pour le mettre en selle, et puis pour l'amener progressivement à la compétition. L'étape après, ben, c'est la qualification, c'est-à-dire qu'un cheval à deux ans peut très bien être qualifié. Vous avez en fait dans le monde du trot un minimum de temps à faire au kilomètre pour pouvoir mettre en compétition votre cheval, ce qui permet un certain écrémage. On peut aujourd'hui, vu la multiplicité des chevaux, il y a 10 000 naissances par an, et encore au niveau du trot, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, il en restera plus que 5 000, c'est-à-dire qu'il y en a moitié déjà qui vont pas passer les compétitions, parce que vous avez un temps minimum à faire, comme une qualification aux Jeux Olympiques, et si vous la passez pas, vous avez le droit de la repasser, même un an après, ce cheval est peut-être pas forcément mature, mais si vous la passez pas, votre cheval ne pourra jamais courir en course. Hein. Donc, ça, c'est important parce que quand vous achetez un cheval, ça, vous l'achetez avant la qualification et il a un certain prix. Si vous l'achetez après, vous avez la certitude qu'il va courir, il n'a plus le même prix.
Bien sûr.
Donc, c'est important quand on part, si vous voulez, dans une organisation et dans l'achat d'un cheval. Voilà, donc globalement, et une fois que votre cheval est qualifié, eh bien, avec l'entraîneur que vous aurez choisi, vous choisirez, en général, l'entraîneur a un peu la main là-dessus, vous choisirez des engagements sur tous les hippodromes de France et de Navarre les plus appropriés au profil du cheval. Je vais prendre mon exemple personnel, j'avais une petite jument qui s'appelle Paola Gelodia. Cette jument ne tournait qu'à droite, préférait les pistes en herbe, avait une origine par Joe Lamoroso qui l'a conféré dans cette circonstance. Donc on essayait de chercher, si vous voulez, des engagements propres. On avait trouvé un il y a deux ans à Niort, on l'a démarré, c'était sa deuxième course, et corde à droite, piste en herbe, on avait eu le bonheur d'avoir les joies de la victoire ce jour-là. Donc voilà, c'est toute une alchimie un peu particulière, mais on s'improvise pas propriétaire de cheval de course, on s'improvise pas entraîneur non plus, quoi. Il faut faire très attention à ça.
Alors comment se fait le choix et de l'entraîneur et du jockey quand on est propriétaire, hein? Il y a des affinités.
Je vais prendre mon cas personnel parce que je me plais à le dire, c'est ce que je connais le mieux. Il y a deux solutions, soit vous choisissez ou vous allez voir un entraîneur de la région parisienne et là ça vous coûte un petit peu d'argent parce que ces gens-là sont très renommés, ont des façons de travailler importantes. Soit vous avez des budgets un peu plus modestes, puis vous allez essayer de trouver l'entraîneur un petit de province, bon professionnel, mais qui vous amène peut-être un peu plus de conseils. Moi, je pense que le plus important, c'est pas le choix du cheval. C'est le choix de l'entraîneur et du partenaire. Parce que c'est lui qui va vous aider. C'est souvent lui qui va choisir le cheval. Quelquefois, il sera lui-même éleveur. Il va vous proposer un rejeton dont il aura la marque de fabrique. Et ça, c'est important. Parce que derrière, il aura l'entraînement et la vision de la maman qu'il a déjà eu à l'entraînement ou du papa. Et il va pouvoir lui faire un programme approprié. À ses caractéristiques.
Ouais, c'est comme un sportif de niveau, l'emmener dans les meilleures dispositions.
Exactement, le jour de la compétition. Et c'est très important. Donc quand je dis, ce qui est important, c'est le choix du partenaire et pas forcément du cheval, ça veut pas dire que le cheval, on s'en fout. Mais ça veut dire que l'intérêt majeur, il faut le porter sur le partenaire. Parce que c'est lui qui va faire ses choix. Et surtout, si vous entendez pas, si vous êtes pas en philosophie avec le partenaire qui va vous accompagner pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, il y a aucune chance. C'est-à-dire que vous partez pas dans l'achat d'une société, avec un partenaire qui est bancal ou avec lequel vous n'avez pas un minimum d'affinité. Sinon, au bout de quelques mois, vous allez rapidement vous rendre compte que vous avez fait une erreur. Donc, véritablement, il faut choisir sa forme de propriétaire, c'est-à-dire soit en propriété unique, soit en association. Mais il faut ensuite aussi choisir le bon partenaire au niveau de la compétition, qui est l'entraîneur, parce que ça peut rapidement vous amener des déconvenues si c'est pas le cas, quoi.
Voilà. Et les jockeys, ce sont les mêmes, ou alors un cheval peut avoir plusieurs cavaliers, plusieurs jockeys.
Alors, quand vous allez choisir votre entraîneur qui va mettre en piste cheval, moi c'est mon cas au niveau de la province et à côté du Mans. Souvent, cet entraîneur est driver lui-même.
D'accord.
Donc ça veut dire en général, il démarre le cheval parce qu'il le connaît, et puis en fonction de l'évolution du cheval, s'il a des bonnes qualités ou s'il a des qualités plus moyennes, il va l'orienter plutôt sur Paris ou plutôt sur la province. Et en fonction de ça, le bon entraîneur, et j'insiste là-dessus, il aura l'intelligence de éventuellement filer sa monte à quelqu'un de plus expérimenté, plus valeureux, en fonction des engagements des chevaux, en fonction de la particularité. Donc si vous voulez, un cheval dans sa carrière, il aura forcément plusieurs drivers, hein, puisqu'on ne dit pas jockey.
Jockey, c'est pour exactement, le galop.
Exactement. Et driver, c'est pour le sulky. Exactement. Ouais. C'est pour le trot. Il aura le choix là-dessus. Et puis après, bah, en fonction des courses, et bien sûr, une course comme le Prix d'Amérique, des entraîneurs de province vont confier leur cheval à quelqu'un d'aguerri et d'expérimenté. Des courses où il y a 10 000 euros de gains d'alloués, peut-être ils auront plus la main là-dessus. Mais un cheval va changer effectivement au cours de sa carrière véritablement de partenaire driver. Mm-hmm. Et il peut changer aussi d'entraînement, mm-hmm. hein, puisque un propriétaire est libre de confier son cheval à l'entraîneur qu'il veut. Hein. Mm-hmm. Donc ça c'est vraiment important.
Une carrière dure combien de temps pour un cheval de
Alors, c'est très aléatoire, ouais. une fois de plus, parce que, vous savez, on est avec de la matière humaine, mm-hmm. et on n'est pas avec du virtuel. Ça veut dire qu'un cheval peut arrêter sa carrière, malheureusement, à la première course, parce qu'il peut y avoir un aléa de course qui le fait rentrer au box et qui va, lui, malheureusement, le couper dans son élan. Un trotteur français peut courir jusqu'à 10 ans en France. Ouais. Au-delà de ça, c'est pas possible. Donc, quelquefois, le trotteur part à l'étranger, courir encore 2-3 ans. Mais la limite d'âge en France, c'est 10 ans. C'est-à-dire que vous pouvez pas courir au-delà de 10 ans en France. Sachant qu'un cheval de course démarre sa carrière en moyenne à l'âge de 3 ans, va rarement au-delà de 10 ans. Ça veut dire qu'une carrière de course, c'est globalement 5 ans. On va dire qu'il y a 3 ans pour ce qu'on appelle un peu vulgairement prendre de l'argent, mmh. et puis ensuite respecter, bien sûr, tout en respectant le cheval, hein, ça c'est clair. Ouais. C'est
ensuite, il y a une retraite dorée après.
Alors, retraite dorée, en général, oui, parce que les tontons des courses, quand on les appelle, on essaye de leur donner une récompense, c'est-à-dire que si pendant 5, 6, 7 ans, ils vous ont donné un plaisir incroyable, on essaye de leur ménager la fin de vie, parce qu'un cheval, en moyenne, ça peut vivre jusqu'à 20, 25, voire 30 ans, quelquefois. C'est plus facile à gérer une carrière de course d'une poulinière que d'un mâle. Rares sont ceux qui finiront étalons, parce que c'est véritablement beaucoup de gains, beaucoup de choses. Par contre, très nombreuses sont celles qui finiront poulinières. Donc c'est beaucoup plus facile à gérer derrière, parce que la poulinière, bah, reste dans le champ, puis une fois par an, elle met bas. Pour information, la gestation d'une poulinière, si je dis pas de bêtises, c'est 10 mois. C'est un petit peu différent de l'être humain, hein. Mmh. Voilà, donc on va dire la fin de carrière d'une poulinière est plus facile à gérer que d'un étalon, ça c'est clair.
Alors bon, vous avez dit, hein, ça coûte beaucoup d'argent. D'abord, ça rapporte combien quand on gagne une course? Et il y a des frais d'engagement aussi. Hein,
oui, oui, tout à fait. Alors, je me plais à donner quelques conseils, grandes bases, parce que
on est là pour ça. Ouais.
Voilà, ce qui retient quand on veut se lancer. Je pense que certains auditeurs peut-être se retrouveront là-dedans, et je me mets à la complète disposition et de manière bénévole pour leur donner quelques informations, si tant est que je sache le faire. Ce qui retient quelqu'un qui voudrait se lancer, c'est globalement qu'est-ce que ça va me coûter, quoi. Mmh. Où je vais? J'aimerais bien le faire, mais j'ai peur. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu pendant 10 ans avant de me lancer. Puis au bout d'un moment, on se lance. Mais faut maîtriser ça. Alors, maîtriser des éléments et des paramètres dont qu'on connaît pas, ou sur de la matière humaine qu'on ne maîtrise pas, c'est pas évident. Néanmoins, il y a une base à peu près solide. Pour quelqu'un qui partirait tout seul, ce qui est pas mon cas, faut savoir que ça coûte environ, pour un entraîneur de province, en termes de pension, d'entraînement, de ferrure et tout, environ 1000 euros par mois. Donc c'est quand même un budget important. Moi, j'ai 34% sur un cheval, donc ça va me coûter en moyenne 300 à 350 euros par mois, ce qui est pas négligeable, hein. Mm-hmm. Donc pour une part à 100%, c'est 1000 euros. Mais sur un entraîneur de Paris un peu coté, c'est pratiquement pas le double, mais pas loin. Mmh. Hein, c'est-à-dire que les grandes pointures de Paris ont une manière de gérer le cheval peut-être différente, qui vont l'amener plus rapidement sur des gains, mais ont des coûts de pension plus importants. Donc on va partir sur ce global de 1000 euros par mois. Mais il faut pas oublier que on peut rajouter facilement 150 à 200 euros, donc on passera à 1200 euros, parce que quand vous allez engager votre cheval, il va y avoir des frais de déplacement. Mmh. S'il est malade, bah, le vétérinaire va se déplacer, il va y avoir le péage quand on va à Bordeaux et qu'on habite à Amiens, c'est pas forcément évident. Et puis il y a l'assurance qui est pas très chère, hein. Un cheval assuré à l'année d'une valeur moyenne, c'est 150 euros. Tout ça, plus ça, ça peut nous amener à 1200 euros par mois pour une part à 100%. Hein. Donc on va partir sur cet adage à 1200 euros par mois, tout compris. Et puis bah les gains. Alors les gains, faut partir du préalable qu'ils n'existent pas. Parce que si vous partez dans votre tête avec l'idée qu'à la première course, vous avez ramassé de l'argent, alors là, au bout de la deuxième course, vous allez baisser les bras, puis à la troisième course, vous allez dire « je rends les armes ». Maintenant, ça existe. Quand j'ai eu la chance de gagner en tant que propriétaire à Niort avec ma petite jument, c'était un prix de 5 000 euros d'allocation, de 10 000 euros, parlons d'allocation. Il faut savoir que le premier cheval gagne la moitié, donc on est 3, donc c'est pas compliqué. On a gagné 5 000 euros divisé par 3 chacun, puisqu'on a, j'ai 34%. Donc ça veut dire que la répartition des gains, c'est 80% pour le propriétaire. C'est 12% pour l'entraîneur et 8% pour le driver. Si je me remets dans les configurations de course de l'Arc de Triomphe, ça veut dire qu'un Christophe Soumillon avec Zarc Ava cet après-midi, qui est grand favori, s'il passe le poteau en tête, il prend 8%, 8 à 10% des 4 millions d'euros. Hein, voilà. Et puis l'entraîneur, etc. Hein. Donc voilà comment ça se passe. 80% pour le propriétaire, 12% pour l'entraîneur, 8% pour le driver. Puis voilà. Alors ça, c'est géré par la SECF. Quand un propriétaire a un cheval, il ouvre un compte à la société des courses et ça permet. Tout ça, c'est en auto-alimentation. Vous n'avez pas votre chèque à faire, etc. Tout ça, c'est très bien géré. On a la chance en France d'avoir des organisations et des organismes vraiment très 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 bonnes. Je donne juste un petit exemple. J'ai parlé de Jacques de Belouet tout à l'heure. Je crois que tout le monde connaît Jacques de Belouet, hein. Il y a 15 ans ou il y a 10 ans, tout le monde connaissait Ourasi. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jacques de Belouet. Jacques de Belouet, il a été acheté 6800 euros il y a 5-6 ans. Il en a rapporté 250 fois plus. Ah ouais. Ce que je veux dire là-dedans, c'est pas... Ça arrive jamais ou ça arrive quasiment jamais. Mais ce que je veux dire là, c'est que un cheval, on peut l'acheter 5000 euros et peut devenir un champion. On peut en acheter un 50 000 euros et peut jamais sortir des box. Donc la règle majeure là-dedans, c'est de s'entourer des bons professionnels et puis que le rêve, il peut être accessible pour quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent, qui a des moyens limités et puis malheureusement pour quelqu'un qui en a le plus, faire le mauvais choix et puis arriver à la catastrophe. Donc surtout, ne perdons pas de vue que c'est pas parce qu'on a des budgets limités qu'on peut pas arriver à se faire plaisir en course, quoi.
Oui. Voilà. C'est avant tout une passion, hein, il faut le dire, et il faut partir avec cette optique-là.
C'est qu'une passion. Hein, maintenant, on peut travailler différemment. On peut structurer une association. Chacun ramène un capital, et là, on gère la carrière de course différemment. Mais je dirais là, peut-être qu'on privilégie moins, si vous voulez, on respecte peut-être moins quelque part le cheval, et ça m'intéresse un peu moins. Maintenant, dans un futur, pourquoi pas. Moi, j'ai créé une association. On est 3 sur le cheval. Si demain des auditeurs nous écoutent et voudrait se lancer à partir du moment où on a la même philosophie, c'est-à-dire que l'argent on la met de côté et qu'on veut se faire plaisir, ben moi je suis prêt à en recevoir et puis à animer tout ça, ça m'intéresse. Mais mon idée majeure, c'est de se dire se faire plaisir, parce que vous savez, quand on va à l'hippodrome et que votre cheval court, quand on a la boule au ventre là en bas, parce que on n'a pas parlé des couleurs, mais moi j'ai la chance.
Oui, on allait en parler.
Oui.
Comment on choisit ces couleurs, ça se...
Alors, si vous voulez, pourquoi des couleurs? C'est-à-dire, on doit pouvoir vous identifier.
Bah, c'est comme pour,
exactement comme un maillot d'un cycliste qui fait le Tour de France. En plus du numéro, on doit pouvoir vous identifier. Alors les couleurs, un propriétaire. Qui voudrait courir sous ces couleurs, ça coûte 300 euros, hein, c'est pas plus compliqué que ça, dépose un dossier à la société des courses, vous faites 3 propositions, et puis c'est la société des courses qui va choisir pour vous sur ces 3 propositions, puisque vous pouvez déposer des couleurs qui sont parfois déjà prises, et une fois que vous avez ces couleurs, eh bien, il y a un délai de 2 mois pour les entériner, et au bout de 2 mois, vous avez vos couleurs, c'est-à-dire que vous pouvez courir sur les hippodromes avec vos couleurs propres. Petite parenthèse, ça coûte 300 euros d'avoir ces couleurs, et une casaque complète, ça coûte aux alentours de 200 euros quand même. Maintenant, en termes d'associés, pour des gens qui voudraient rejoindre un groupement autour d'un cheval, vous n'êtes pas obligé d'avoir vos couleurs, vous pouvez bénéficier des couleurs de votre associé majoritaire, mais je dirais que c'est pas tout à fait pareil, et par contre vous n'aurez pas ces frais dont je viens vous parler à avoir. Une fois que vous avez vos couleurs, bah, vous courez. Donc quand vous passez le poteau avec vos couleurs, bah, c'est comme quand l'avant-centre de Saint-Etienne marque un but en finale de la Coupe de France, c'est les couleurs de Saint-Etienne qui passent le poteau en tête, quoi.
Et puis naturellement, il doit y avoir une joie, une extase remarquable quand on voit ces coureurs, ces couleurs, donc
enfin, bon, ça,
franchir le poteau d'arrivée en tête, on doit la même effervescence que que l'entraîneur de foot qui voit son
joueur. Ah oui, marquer, oui, hein. c'est quand vous passez le poteau, vous marquez
un but. C'est une joie inexplicable, quoi.
Ah ouais, c'est le coup de tête de Zidane en finale de la Coupe du Monde. Oui. C'est-à-dire que, alors moi je l'ai vécu, ouais. C'est marrant parce que moi j'y ai pensé tellement de fois quand j'étais gamin que quand je me suis dit c'était un rêve, c'est pas réalisable parce que faut savoir que les chevaux de course, vous avez vu, les crémages, c'est-à-dire qu'il y en a 10 000, il en reste plus que 5 000, il faut le qualifier. À l'arrivée, il faut vos couleurs, vous courez sur l'hippodrome. Il faut pas qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il arrive. Enfin, c'est pour arriver à gagner une course.
C'est des années, des années de.
C'est-à-dire, c'est une chance. Mm-hmm. Et quand votre cheval, y a tout qui défile, quoi. Pendant la course, il y a tout qui défile. Moi, j'ai eu la chance, mon cheval a eu 10 longueurs d'avance, donc vous avez le temps de l'apprécier. Mm-hmm. Et c'est paradoxal parce que quand votre cheval, vous réalisez pas. Quand vous réalisez, bah c'est quand vous avez revendu votre part ou quand vous avez plus de cheval. Là, je suis en instance de reprendre une part sur un autre cheval. Ça devrait arriver. Mm-hmm. Vous réalisez, c'est dans les moments difficiles. Quand vous êtes sur l'événement, vous réalisez, vous êtes content, mais vous vous dites, bah ça va arriver à nouveau. Bah il faut savoir que depuis 2 ans, il m'est pas arrivé de gagner une seule fois. Donc ça veut dire qu'il faut apprécier le moment. Il faut être conscient de certaines choses et par contre véritablement oui c'est quelque chose d'exceptionnel et je le conseille à tout le monde parce que dans la vie qu'on mène de tous les jours on n'a pas que des bonnes choses et les petites poussées d'adrénaline et des moments aussi particuliers que ça il faut en profiter quoi, il faut vraiment en profiter.
Absolument Boris, alors je voudrais simplement rappeler, on l'avait dit hein, que se déroule également aujourd'hui du côté de Buc hein, au parc du château à partir de 9h les 22e foulées olympiques, hein, sport en famille, on devait avoir Gabriel Tissier, apparemment il doit être assez occupé donc il ne sera pas disponible, donc il y aura des épreuves sportives de course à pied, d'handisport, de marche non compétitive, de cyclisme, de randonnée familiale et de randonnée pédestre, et puis à partir de il y aura aussi entre 10 et 17h diverses animations et démonstrations sportives comme du biathlon avec roller à ski et tir laser, de l'escrime, du golf, du jeu d'échecs et du karaté, ainsi que des murs d'escalade, du modélisme, des promenades en poney, du taekwondo, du rugby, du tir à la carabine et du tir à l'arc, et le tout agrémenté naturellement d'un pique-nique et d'une buvette sur place. Donc on lance vraiment la saison de sport pour donc le comité départemental olympique et sportif dans notre département à travers donc ces 22e foulées olympiques. Alors Boris, maintenant, on l'a dit, c'est le prix de l'Arc de Triomphe. Hein, donc, oui.
Grand événement du jour. Hein.
Donc propriétaire, aussi pronostiqueur, hein, puisqu'on vous entend tous les jours sur donc l'antenne d'Hervé à travers vos pronostics, y compris le samedi et le dimanche. On l'a même rediffusé la semaine dernière avant Tribune Foot. Alors, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde que Jean-Claude pour les pronostics?
Ah, à peu près, on va voir dans le pronostic, je l'écoutais attentivement tout à l'heure et je m'aperçois que sur les grandes courses comme ça, il y a pas souvent de surprise. C'est les plus grandes fortunes du monde, c'est la plus grande course, c'est les plus grands drivers. Donc à l'arrivée dans cette spirale, tout concourt à ce que il y a 50 000 spectateurs qui vont être dans l'arène cet après-midi, il y aura à peu près 1000 journalistes accrédités, et c'est retransmis dans 200 pays, c'est plus d'un milliard de téléspectateurs. Donc à l'arrivée, il y a toujours eu des belles histoires, mais
16h40 sur Canal Plus, hein, pour
les
auditeurs.
Tout à fait. Et donc pour info, si vous venez, je le souhaite, sur l'hippodrome de Rambouillet cet après-midi, vous inquiétez pas, hein, y a des écrans de télévision, vous pourrez voir l'événement en direct. Mmh. Alors le pronostic, si vous voulez, la course, donc c'est sur les 2400 mètres sur gazon, bien entendu, à Longchamp. L'entraîneur Aidan O'Brien a engagé deux chevaux dans cette course. J'ai malheureusement peur que le temps qui est quand même un petit peu à la pluie contrarie un petit peu ses prétendants, mais néanmoins devrait pouvoir faire l'affaire. Alors sur le pronostic, vous allez voir que par rapport à Jean-Claude, on n'est pas si loin ensemble sur ce pronostic. Premièrement, le 16, Zarkava, ça sert à rien de le jouer, c'est certain, parce que vous allez prendre des risques, puis pas gagner grand chose à l'arrivée, mais l'histoire est tellement belle, l'Agacan gagne pratiquement une fois sur deux ce genre de compétition. Royer Dupré, l'entraîneur, c'est la Dream Team, quoi. Donc le 16 Zarkava. Ensuite, j'ai placé un peu plus haut que Jean-Claude l'As Yumzen. Je pense que véritablement c'est un métronome. Ça, il est tout le temps à l'arrivée de ces grandes courses de groupe 1. Et puis là, il connaît bien son driver. Je pense que ça devrait faire. C'est peut-être même la principale opposition au 16 Zarkava. Donc l'As Yumzen. Et ensuite, j'ai placé Duke of Marmelade, le 7, donc protégé d'Aiden O'Brien. Très régulier. Il a que des victoires cette année. Mais je pense que le temps va peut-être légèrement le contrarier. Sinon, Alliance est un favori en puissance, donc je l'ai mis troisième. Puis pour pimenter les rapports, j'ai mis le cheval japonais dont parlait Jean-Claude tout à l'heure, Meisho Samson. Attention à lui, l'année dernière il a déclaré forfait au dernier moment. Ça pourrait être la surprise, c'est-à-dire que si d'aventure il devait y avoir un cheval qui bat Zarkava avec une cote assez astronomique autour de 10-15 euros, ça pourrait être lui. Donc véritablement là, si vous voulez prendre un pari risqué pour jouer un cheval gagnant, peut-être jouer le 5 Meisho Samson. Donc le 16, l'As, le 7 et le 5 en pronostic base quintée. Et puis ensuite, on va mettre le 4, Scarpelli, monté par Lanfranco de Torri, qui est certainement le meilleur jockey au monde. Le 6, Soldier of Fortune, qui fait écurie avec Duke of Marmelade, qui est pas venu pour rien. Le 2, Zambezi Sun, qui est pasquierisé. Son driver, c'est Stéphane Pasquier, on le connaît bien. Le 8, Papa Bull. Et le 11, Getaway, monté par notre ami Olivier Pellier, qui est plus là pour une place. Mais enfin, les places, c'est des places à 100 000 euros. Donc, si vous voulez, on s'en contente quelquefois. Et puis pour finir, il y aura une deuxième réunion aujourd'hui, puisque maintenant on peut, et prochainement d'une manière plus régulière, on va pouvoir jouer, si vous voulez, sur tous les hippodromes de France et de Navarre, évolution du PMU. Il y a une réunion 2 qui est à Alençon, et j'ai choisi pole position, le 509, donc dans la réunion 2, hein, le 509, ne cochez pas réunion 1 parce que c'est celle de l'arc. Le 509 pole position, il est très bien engagé à la limite du recul, se protéger de Jean-Philippe Dubois qui est pour l'instant un peu mis de côté pour cause de suspension d'un an par rapport à un dopage de certains de ses chevaux, donc on en profite pour le saluer, ça doit pas être facile. Se protéger de Jean-Philippe Dubois devrait pouvoir profiter de cette belle possibilité. Il a 25 mètres d'avance sur les meilleurs chevaux, et je pense qu'il devrait partir une cote de 5-6 euros, donc le 509 pole position, ça devrait pouvoir passer à Alençon, voilà, dans la deuxième réunion.
D'accord, donc ça sera les chevaux du jour, c'est ça en quelque sorte.
Donc ça c'est le cheval du jour, j'en ai pas donné dans la première réunion comme je le fais d'habitude tous les jours et puis le week-end, parce que vous savez, une réunion d'Arc de Triomphe, faut savoir qu'une réunion c'est 7 à 8 courses, tous dotés de on va dire de 300, 500 à 1 million d'euros, et en général c'est pas très prolifique au niveau des gains, et puis le papier est parfois pas intéressant. Ce que j'appelle pas intéressant, c'est que si c'est pour faire un papier que tout le monde fait, c'est pas ça qui va m'intéresser. Ce qui nous intéresse, nous, sur RVE, au cours de la semaine, au cours des week-ends, c'est d'essayer de vous mettre en cheval du jour, un petit cheval qui peut faire la cote. Je me rappelle, la semaine dernière, vous avez redonné un cheval qui s'appelle Quat Ludois, qui a couru à Vincennes. Malheureusement, il est arrivé quatrième, mais il est parti à 66 contre 1. Donc si j'avais eu le bonheur qu'il saute un rang et qu'il fasse troisième, vous auriez pu gagner pour 10 euros de mise, 100, 120 euros. C'est ça qui va nous intéresser, sortir un peu du sentier battu pour vous amener au pronostic. Alors c'est clair que le pronostic qu'on vient de vous donner pour le Quintet Plus, si, quand bien même vous l'avez dans l'ordre, ça va pas vous rapporter des 100 et des 1000, mais aujourd'hui il faut pas oublier qu'il y a la tirelire. La tirelire, c'est 6 millions d'euros aujourd'hui, 6 millions d'euros, hein, ça a jamais été fait, et ça veut dire qu'un petit quintet dans l'ordre avec le numéro plus, c'est mieux qu'un gros quintet dans le désordre sans le numéro plus. Donc bonne chance à tous pour aujourd'hui, quoi.
Comment on fait les pronostics? On tient compte des tuyaux, des relations qu'on a un peu partout? C'est le feeling, ça se fait comment? Parce que chaque pronostiqueur est big à sa façon de travailler, hein.
Bien sûr, bien sûr. Bah c'est là encore une fois, c'est difficile à commenter, parce que quand c'est quelque chose que vous vivez depuis maintenant plus de 25 ans,